Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Ça fait toujours plaisir quand nous vous savons très nombreux sur la 93.5 pour suivre cette émission. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h. Et nous sommes ensemble pour le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays et du continent africain et du monde entier dans cette émission. Et déjà, vous le savez très bien, vous savez très bien que les 5 anciens chefs d'État africains nommés facilitateurs dans le conflit des Grands Lacs en RDC par les chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et la communauté d'Afrique de l'Est, CAE, se sont retrouvés autour du médiateur de l'Union africaine, Fornia Singbe, ce samedi à Lomé. Selon un communiqué officiel rendu public à l'issue de cette rencontre de Lomé, le médiateur et le panel des facilitateurs ont insisté sur la nécessité d'articuler de manière cohérente les actions des facilitateurs et celle du médiateur dans un cadre intégré. De même, ils ont insisté sur l'importance d'une collaboration renforcée avec les organisations régionales, notamment le CAE et le SADC. Et nous allons en parler dans cette émission. Nous aborderons d'autres sujets également liés à l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier dans cette émission de ce lundi 18 mai 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor Guetomega est à la mise en onde. Jérôme Akouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takwame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dapaon. Vous le savez bien, vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, lundi. Lundi, ça rime bien avec Jacques Diakouti. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion, Pascal, pour te présenter mes condoléances les plus attristés suite au décès de ton papa. Lundi, nous étions dans ce studio, on a remarqué que tu n'étais pas dans ta peau et à la fin, tu nous as annoncé la nouvelle par rapport à la maladie de ton papa et dans la nuit profonde, tu nous as fait comprendre qu'il est parti. Je voudrais profiter de l'occasion pour te présenter mes condoléances les plus attristées.
Merci beaucoup.
Les plus Jacques. Attristées à la famille et présenter également les condoléances les plus attristées à notre confrère Yves Doussou.
Yves Gallet, autant pour moi.
Voilà,
Yves Gallet, qui a perdu sa femme.
Qui a perdu également son épouse aujourd'hui. Et l'enterrement, c'est également tout à l'heure, à 13h après la prière à la mosquée. Et je voulais présenter vraiment mes condoléances les plus attristées À toi, Pascal.
Merci.
Sûrement que tu as des frères ou des sœurs, je ne sais pas.
Tout à fait, j'ai des sœurs et des frères.
Je ne sais pas si la maman est là.
Tout à fait.
D'accord. Donc, à toute la famille, les condoléances les plus attristées. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile de se séparer d'un être cher. Ce n'est pas que la personne a voyagé, la personne a le marché, elle va revenir. Et vous ne la verrez plus jamais. Mais vraiment que Dieu soit vraiment votre consolateur et console également toute la famille. Vous avez donné le programme. C'est la veille, c'est ce vendredi, l'enterrement le samedi.
Tout à fait.
Donc, les personnes, les bonnes volontés, ceux qui nous écoutent et qui aiment Pascal, donc c'est le lieu de venir lui témoigner vraiment votre amour envers lui et envers également la famille. Pascal, une fois encore, mes condoléances les plus attristées.
Merci beaucoup, Jacques, voilà, pour ces mots de consolation et aussi de soutien à notre égard. Merci beaucoup.
Donc, je salue les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent actuellement et ceux qui sont malades. Prendre guérison, tous ceux qui traversent des situations un peu difficiles et qui pensent que c'est fini, il faut se dire qu'il y a espoir. Il y a toujours l'espoir lorsque nous vivons. Parce que lorsque nous réveillons, nous avons un souffle de vie, c'est toujours un espoir pour nous. Et inviter nos compatriotes qui pensent que la vie est si facile, la vie n'est pas du tout facile. Je voudrais évoquer la situation de Garpanga avec ces deux policiers qui ont pensé que la vie est facile en ôtant la vie à une dame pour pouvoir s'enrichir ou bien s'accaparer de ce qu'elle avait. C'est le lieu d'inviter nos compatriotes. C'est-à-dire que, Pascal, si la vie même est difficile, ce n'est pas le meilleur chemin, le meilleur choix d'ôter la vie à quelqu'un pour pouvoir s'accaparer de ce que la personne a. Ce n'est pas bien. Et inviter une fois encore la police nationale, le ministère de la Sécurité, à ne serait-ce que peut-être aider de temps en temps à faire des analyses avec les policiers, les forces, les gendarmes, pour voir un peu leur niveau psychologique par rapport au travail, parce qu'il y a souvent le stress. J'ai assisté, Pascal, à un scandale comme ça, des années, dont je voulais taire le nom de la ville. Vous savez, c'était au cours des récoltes du coton. Donc, l'association a été payée, et c'était une somme de 30 millions. Donc, le vieux papa s'est dit que en rentrant avec cette somme la nuit là, il risquait quoi. Donc il est allé voir les forces, c'est-à-dire que la gendarmerie de la localité, de pouvoir l'escorter, l'aider, ne serait-ce que pour garder cette somme. Et le lendemain, ils vont voir. Mais le vieux étant très malin, très intelligent, vous savez, le vieux avait les fusils de chasse là. Il a pris son fusil de chasse, il a pris les 30 millions, il a grimpé l'arbre. Donc, il a passé la nuit sous l'arbre, quoi. Et la nuit tombée, qu'est-ce qu'il a vu? Ceux qui l'ont escorté pour le ramener, c'est eux encore qui sont venus la nuit. Il y a un qui a mis la tête dans sa chambre. Le vieux étant perché sur l'arbre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré. Il a atteint, effectivement, un. Les autres l'ont fui. Ils ont fui. Et finalement, c'est le lendemain qu'on a dû découvrir ce qui s'est passé. Et en catimini, on a dû taire l'affaire pour que ça ne fasse pas du bruit. Donc, il faudrait que les gens qui pensent que c'est facile d'avoir l'argent, ce n'est pas facile. Il faut toujours travailler avant d'avoir de l'argent. Et tuer quelqu'un pour avoir de l'argent, ce n'est pas bien. Je voulais m'arrêter en invitant le ministre, je crois que c'est du tourisme, parce que c'est le ministre du tourisme qui est chargé du palais des congrès. Il est temps d'ouvrir ce palais-là à nos artistes, parce que nos artistes souffrent. Les artistes veulent organiser des concerts, mais ils ne savent pas où organiser le concert, parce que vous savez que c'est le seul palais qui constitue aujourd'hui un lieu où nos artistes peuvent également faire leurs concerts. Donc, plaise à Dieu que le ministère du tourisme puisse écouter le cri des cœurs de ces artistes-là en ouvrant le palais des congrès pour les concerts.
Merci beaucoup, Jacques, pour vos mots. Gosson Ketomania, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Nous rendons grâce
à Dieu. Dieu merci.
Je reprécise cette phrase. Nous rendons, ou spécialement, je rends grâce à Dieu parce que c'était possible que vous n'entendiez pas ou peut-être plus ma voix ce matin.
Non, mais qu'est-ce qui s'est passé, Gerson?
C'est en 2013 que j'avais été agressé à la nuque. Et depuis, je traîne une kéloïde qui est très rebelle. Et donc, jeudi soir, ça s'est réveillé avec une infection pas possible. Toute ma nuque était lourde. J'ai même remarqué un ganglion. Quand un ganglion sort au niveau de ta tête, donc il faut comprendre que c'est pas facile. Donc, Dieu merci, j'ai fait ce qu'il fallait. Et très tard dans la nuit aujourd'hui, le puits a pu s'échapper et j'ai enfin retrouvé la quiétude. Ceci pour dire que la vie de l'homme n'est rien.
Tout à fait. Nous rendons toujours grâce à Dieu
voilà.
Pour cette vie qu'il nous accorde le jour le jour.
En plus de la perte de ton papa pour lequel je compatis, et la perte, celle de la femme de
Yves Gallé,
il y a le père de notre collègue
Joël Dadi
aussi, dont le père a transité et qui attend toujours d'être conduit à sa dernière demeure. Donc je saisis l'occasion pour
trop de mauvaises nouvelles là.
Voilà, mais ce n'est réservé qu'aux mortels.
Tout à fait.
Donc lui souhaiter du courage et rebondir par rapport à ce que Jacques vient de dire, parlant du palais des congrès. Je ne sais pas pourquoi il va demander qu'on ouvre enfin le palais des congrès. Puisque moi, personnellement, selon mon analyse, c'est le signe que les artistes au Togo ne sont pas considérés par l'exécutif. Je me rappelle les années qui sont passées et pour lesquels les climatiseurs du palais étaient en panne. Mais c'est dans cette panne qu'on organisait les concerts et autres. Mais il a fallu que ce soit un lieu qui va être réservé aux sénateurs ou je ne sais quoi, pour qu'on assiste à une rénovation. Et à la suite de cette rénovation, pour passer par là, tu es obligé de ralentir parce qu'il y a des barrières pour je ne sais quoi. Si c'est pour la sécurité ou c'est pour ralentir, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Donc, une fois encore, M. Jacques, ce n'est pas pour les artistes que le palais a été rénové. Autrement, attendons de voir.
Mais est-ce qu'il n'est pas temps quand même qu'on ait un palais de la culture digne de son nom?
Nous sommes endettés.
Vous qui le dites, Gosson Kitomania et Didier Soda, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour à mes amis en studio. Je profite aussi de l'occasion pour te présenter de voix vive mes condoléances les plus attristées pour la perte de ton papa. On en parlait hors micro la dernière fois et on était en union de prière et on plaidait pour que le papa puisse rester avec nous. On dira que le Seigneur en a décidé autrement. Nous positivons, mais beaucoup de courage. Ayant traversé une telle épreuve il y a juste 2 ou 3 mois, ou disons 5 mois avant toi, je sais forcément ce que tu traverses actuellement. C'est pas du tout facile. Et surtout, on se retrouve à être dans la position où tu te trouves à être l'aîné ou celui le plus en vue dans la famille. C'est très compliqué. Je te souhaite beaucoup de courage. Et beaucoup de courage également à mon confrère Yves Gallet pour la nouvelle que j'ai apprise il y a quelques temps avant d'arriver en studio. C'est très dur de vivre des choses pareilles en des moments très compliqués pour des journalistes. Beaucoup de courage à Yves, il ne pourra pas être à l'écoute actuellement, mais beaucoup de courage à lui. Et comme Jacques le disait dans son mot introductif, il faut justement que c'est le moment que des gens qui t'aiment, qui apprécient la façon dont tu animes l'émission, ceux qui sont proches de toi, c'est le moment véritablement de t'assister pour que les obsèques puissent véritablement se tenir le week-end prochain. Donc c'est l'appel que je pourrais lancer à chacun de nous, ceux qui nous écoutent, ceux qui peuvent encore faire preuve de la solidarité dans la République, d'aider des jeunes journalistes comme nous dans des moments difficiles comme ça pour pouvoir gérer la mémoire de nos parents. Donc je lance cet appel là et pour le reste la République s'en chargera. Que ce soit le palais des congrès, que ce soit les artistes, que ce soit les sénateurs,
que
ce
soit la... Mais il semble que la République est endettée, selon...
Ben, de toute façon, ce n'est pas un secret, ou plutôt c'est un secret de polichinelle pour tout chacun de nous. On sait tous que le taux d'endettement du Togo aujourd'hui frôle les 70%, ce sont 9, poussières. Si on n'a rien caché, de toute façon, si on n'a rien caché, on est autour de 70%. Maintenant, si on avait caché des choses comme le Sénégal, donc ça veut dire qu'on a dépassé les 70%. Mais je souhaite que rien ne soit caché et qu'on soit autour des 70% là. Et à ce seuil-là, ça devient très compliqué. Et surtout que l'endettement n'a pas fini. Et on continue de s'endetter chaque semaine, sinon chaque mois, sur le marché financier régional et tout. Ça devient très très compliqué. Et dans ces conditions-là et dans ce contexte-là, il va être très compliqué de réaliser des infrastructures dont tu parles, palais de culture, palais des sports, ou je ne sais plus quel palais, parce que celui qu'on a, c'est des congrès. Donc, pour le moment, c'est les congrès. Donc, attendons qu'on ouvre ça pour des congrès et que la Providence continue de veiller sur notre pays, notre République, et que ben, finalement, on puisse avoir, dans les années à venir, pourquoi pas, on nous a promis plus de développement, plus de démocratie, et tout ce que vous voulez, et pour que on ait dans le plus de développement là, on puisse avoir les moyens demain de construire un palais de culture pour les acteurs culturels, les artistes, les cinéastes et tout ce qu'on a comme acteurs culturels, et que de l'autre côté, on puisse avoir également un palais des sports, pourquoi pas, pour permettre également à ce que les sports au Togo puissent s'éclore. Donc, nous continuons de positiver pour notre pays. De toute façon, c'est le seul qu'on a aujourd'hui. Donc, continuons de positiver.
Ah, d'accord, nous continuons de positiver. Jacques, c'est vrai, parlant de la dette, on sait que déjà la semaine dernière, du 12 au 14, il y a une rencontre de l'Union africaine sur la dette publique qui s'est déroulée à Lomé. Et nous avons vu même d'ailleurs des experts, des économistes défiler à Lomé pour discuter de la dette publique. Et le 14, c'était fini, la rencontre. Il y a eu même, cette rencontre a été, à l'issue même d'ailleurs de la rencontre, on pourra dire qu'il y a eu une déclaration de Lomé sur la dette publique où le président du conseil est désormais choisi pour être le porte-parole en quelque sorte de l'Union africaine sur cette question de la dette. Alors, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que avec la déclaration de Lomé, Jacques, quelque chose va bouger pour ce qui concerne la dette sur le continent?
Non, si vous suivez la déclaration, il est dit que le PC soit le porte-parole ou bien porte-voix auprès de l'Union africaine par rapport à cette dette et les résolutions. Il a dit que ça ne serait pas facile, c'est un lobbying qu'il faut effectivement faire, parce que quand vous prenez par exemple, quand on parle de la dette, la dette ne concerne pas seulement un seul pays. C'est-à-dire que la dette engloutit aujourd'hui presque la quasi-totalité des États que nous avons. Et comme on le disait la dernière fois, il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui va dire que ce pays n'est pas endetté. La quasi-totalité des pays sont endettés. Mais le hic, c'est que comment effectivement est géré les fonds qui rentrent et comment sont reparties effectivement les richesses que ces pays en disposent. Et lorsqu'on prête de l'argent, quelles sont les priorités dans lesquelles on investit l'argent? Et que chaque fois, on revienne sur la même dette et qu'on revienne également sur le même investissement. En Afrique, vous allez entendre parler de l'eau, vous allez entendre parler de l'électricité, vous allez entendre parler de la route et de la santé et tout ça. Et la quasi-totalité des dettes en Afrique, on parle toujours de l'investissement dans ces secteurs. Et quand on va encore s'endetter, on revient encore sur le même secteur d'investissement, mais finalement, on ne comprend pas. Donc il faudrait aujourd'hui que les économistes que nous avons, et qui sont là en train de nous expliquer le bien fondé de la dette, c'est vrai, mais comment cet argent est utilisé, à quoi on servit effectivement l'argent prêté, et comment le remboursement se fait. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons, Pascal, que lorsque, par exemple, les États demandent un peu les prêts dans des banques un peu partout, Il y a ceux que nous appelons les coupeurs de route, c'est-à-dire que ceux qui sont là également, qui montent les dossiers, qui sont obligés de prendre les 10% sur les prêts que les États prennent. Ça, c'est pas un secret, c'est des choses qui se font.
Parce que, et là, c'est la corruption qui est passée par là.
Est-ce qu'on te parle là de la corruption? Parce que les gens te diront que c'est eux qui ont monté le dossier. C'est-à-dire qu'on monte le dossier, on soumet le dossier, quand on décaisse les fonds, vous êtes obligé de le faire. Et quand vous voulez évoquer la question de la corruption, là-bas, on vous dira, mais si c'est vous qui devez prendre le dossier pour en faire, on ne vous donnera pas de l'argent. Moi, je crois que, quelque part, il y a ce que nous appelons quand même l'hypocrisie, d'abord de ceux qui donnent de l'argent, et ceux qui prennent cet argent, et comment l'argent a été géré. Parce que, Pascal, quand vous prenez par exemple les agences aujourd'hui, ceux qui nous prêtent de l'argent, la plupart, quand ils viennent souvent avec les experts. Et c'est les experts là qui font souvent le travail à la place des nationaux. Et on se pose des questions, mais si vous nous donnez de l'argent, vous nous envoyez encore les gens pour suivre, par exemple, ce que nous voulons faire, finalement, ce n'est plus une aide, mais plutôt c'est un suivi. Mais à ce sujet aussi, ça se comprend. Parce que les gens ont fait le constat, c'est que lorsqu'on se donne de l'argent pour que les gens fassent le travail ne se fait pas. Parce que la preuve est que quand on investit dans un domaine, le lendemain, vous revenez sur ce domaine, vous voyez que les choses n'ont pas bougé. Mais l'argent est passé où? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et comme je l'ai dit, on peut s'endetter. On peut s'endetter lorsque l'argent que vous prenez, vous investissez, et les gens voient ce que vous êtes en train de faire, les gens ne vont pas critiquer. Mais lorsque vous prenez de l'argent, vous dites que vous voulez investir dans un secteur et on ne voit pas ce secteur-là prospérer, les gens sont obligés effectivement de se poser des questions.
D'accord. Gosson, c'est vrai qu'il y a un observateur autour du plateau la semaine dernière quand nous discutions de cette question de dette qui disait que, en fait, c'est que les Africains, lui, ce qu'il observe, ce qu'il a remarqué, c'est que les Africains ne sont pas sérieux en matière de ces questions de dette. Est-ce que vous avez aussi cette impression, c'est-à-dire quand il parlait des Africains, il parlait plus alors des dirigeants africains, puisque aujourd'hui on organise une rencontre sur la dette publique et après la question c'est de savoir mais qu'est-ce qui se fera après.
Certains Africains et certains dirigeants, la nuance vaut le détour. Quand il s'est agi de crier sur tous les toits comme quoi nous sommes fatigués de la condescendance de l'Occident et des autres, on ne s'est pas retenu. Mais quand il s'agit, après qu'on a contracté des prêts et qu'il y a des dénonciations de mauvaise gestion, quand il s'agit de demander la reddition de comptes, nous ne sommes pas prêts à nous plier à ça. Mais Pascal, celui-là qui nous avance l'argent, il n'est pas fou. On nous suit. Mieux, on nous marque à la culotte. Prenons l'exemple de la période de Covid, au cours de laquelle le Togo a eu gain de cause en matière de prêts pour gérer la crise. Mais c'est dans notre temps de pays là que des dénonciations ont fait état de mauvaise gestion. Mais à quoi on a assisté? Un faucon de parlementaires, de députés qui ont donné l'impression d'interroger et après, motus bouche cousue, on a fermé ce dossier-là. Pourtant, ailleurs, lorsqu'il s'est agi de mauvaise gestion dans cette même affaire, mais des têtes sont tombées. Ailleurs, ça tombe. Mais chez nous, jamais. Soyons sérieux. Vous pensez que si, par la grâce, on est passé par l'IPPTE et qu'on nous a... on a annulé une partie de la dette de notre pays, mais l'emprunteur n'est pas fou. Actuellement, au même moment où nous demandons qu'on annule la dette, le Togo se prépare à contracter un emprunt de 350 millions de dollars ou d'euros, je ne sais plus. D'euros, je crois.
C'est euros.
Voilà. Oui. Ben, ça là, c'est pas une dette qu'on va contracter. Ou alors on va la contracter et après on va demander que ça soit aussi annulé.
Mais est-ce qu'on peut vivre, on peut réaliser le développement sans dette?
Jamais. Mais Jacques vient de le dire, Pascal. S'endetter sous dossier est incontournable. Je dirais même que c'est une bonne chose. Du moment où vous gérez bien l'emprunt que vous avez contracté, ben, ce sont les emprunteurs qui vont courir derrière vous pour vous en donner encore parce qu'ils voient que ben, les résultats sont tangibles. Mais quand dans un Gondwana, on prend. Après, ça disparaît. Mais j'ai toujours à ce jour, au travers de la gorge, le fait que pour la route Lomé-Vaugan, enfin, on ait décaissé 26 autres ou 35 autres milliards pour terminer cette voie-là. Qui est-ce qui va rembourser?
Donc, que le compte alors de l'autre n'a pas été fait.
Et nous voulons que l'emprunteur efface cette dette-là. Mais il est temps qu'on cesse de rêver. Je veux préciser aussi que s'il ne s'était agi que de noter les pays dans lesquels on prend des déclarations, le Togo serait développé depuis. Déclaration sommet sommet maritime. Déclaration, je ne sais quoi. Déclaration. Nous, on est là que pour ça. On n'entend jamais le Ghana parler de ces genres de choses. Mais franchissons un peu la frontière pour voir ce qui se fait. C'est vrai, le Ghana aussi est très endetté. Mais les populations voient ce qui est réalisé avec l'emprunt contracté, Pascal. C'est ça qui fâche. C'est ça qui fâche. Vous m'excuserez si le ton monte. Mais il s'agit de notre pays. Et quand c'est mal géré, on doit s'indigner. Et là, je suis indigné.
D'accord. Didier, la question justement, c'est de savoir comment la dette est aussi gérée aujourd'hui. Parce que après tout, quand on nous parle alors de la viabilité de la dette, ça veut dire que au fin fond, on parle également de cette bonne gestion de cette dette. Est-ce que ça veut dire que la gestion cause vraiment problème?
Vous savez, on ne peut pas faire preuve, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Il me semble que un penseur a dit, si c'est pas Einstein, qui a dit qu'on ne peut pas faire la même chose tout le temps et espérer des résultats différents.
Il semble que c'est les imbéciles qui le font.
Bon, donc, moi, j'ai pas dit ça. Bon, j'ai juste cité Einstein. Mais je crois que sur le continent africain, on a cette vilaine habitude, sinon je ne sais pas si c'est des actes manqués, de faire la même chose tout le temps et d'espérer que les choses donnent des résultats différents. Et c'est, si vous voyez, sur tous les pays, dans tous les pays du continent, c'est malheureusement ce à quoi on assiste. On contracte la dette, on gère mal la dette, l'argent ne va pas servir à ce pour quoi on a emprunté cet argent-là pour réaliser les infrastructures et investir dans les projets pour lesquels on a contracté la dette. Et après, on espère que par un coup de baguette magique ou je ne sais pas, par une pluie qui tombe du ciel, que ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas pu faire avec l'argent ou qu'on n'a pas voulu in fine faire avec de l'argent et que l'argent, on ne sait pas, qui se dilapide ou qui s'évapore comme ça dans le cours de la réalisation des projets, que les résultats viennent eux-mêmes. Et ce n'est pas possible que les choses continuent ainsi. Donc, si on veut parler de la viabilité de la dette, il faut d'abord parler de la viabilité de notre gouvernance, la viabilité de la gestion des projets et de nos pays. Donc, si on viabilise la gestion de nos pays, on viabilise la gouvernance étatique sur le continent, je crois que les choses iront de pair. C'est-à-dire que si la gouvernance elle-même, elle est vertueuse, si la gouvernance elle est vertueuse sur le continent, si on emprunte de l'argent, la gestion de l'argent sera vertueuse et les résultats vont suivre naturellement. Mais si on emprunte de l'argent et que les commis de l'État et le système est fait de telle sorte que chacun puisse trouver un moyen de prendre une bonne partie de l'argent et que finalement ce qui sert à réaliser des projets de société, ils ont cité les secteurs, Jacques a cité les secteurs, l'eau, l'électricité, la jeunesse, l'éducation et tout ce qu'on, la route et tout ça, et que finalement pour une seule route on soit obligé d'emprunter trois fois pour réaliser une seule route, pour réaliser un forage on soit obligé de payer deux ou trois fois parce que il y a un mécanisme qui a fait que ceux qui ont pris les premiers décaissements n'ont pas pu réaliser et on leur a demandé aucun compte. Et sois d'accord avec moi qu'on a beau multiplier les conférences, on pourra même faire des sommets sur des sommets, jusqu'au sommet de l'Himalaya, on n'aura jamais gain de cause sur ce sujet-là. Donc, pour parler de la viabilité de la dette, parlons d'abord de la viabilité de la gouvernance. À quoi a servi la dette contractée en Afrique aujourd'hui? Si quelques pays s'en sortent, ben la majorité des pays s'engluent dans ce problème de mauvaise gestion et finalement il n'y a pas de résultat. Il y a quelques exemples sur le continent où les gens prennent aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le Bénin à côté ici, le Rwanda et d'autres pays encore. Mais pourquoi pas les autres ne suivent pas l'exemple de ce qui marche et qu'on continue de vouloir faire les choses comme on le faisait avant et on veut espérer que les choses changent. On a eu l'initiative PPTE pour beaucoup de pays africains. La dette a été remise. Mais entre 2010, autour de là, où la dette a été remise à beaucoup de pays africains, 2010 et 15 ans après, on fait une conférence pour demander qu'on nous remette encore la dette. Qu'est-ce que nous avons pu faire de 2010 à 2015? Qu'est-ce que nous avons pu faire avec les nouvelles dettes que nous avons contractées, où on partait de zéro? Si la plupart des dettes avaient été remises, on partait pratiquement de zéro. Pour arriver aujourd'hui, pour notre pays, 70%, pour d'autres pays encore un peu plus, qu'est-ce qu'on a fait de toute cette dette-là qu'on a contractée sur les 15 ans et que nos pays encore sont en difficulté et qu'il y a des Togolais encore. Chez moi, par exemple, où il y a des difficultés pour avoir accès à l'eau potable, Jacques dirait la même chose. Je ne sais pas pour Godson, mais Uriel, s'il avait été ici, il dira qu'il n'y a pas de route pour aller chez lui au village. Moi, si je dois rentrer chez moi, si j'ose aller par moto, je serai méconnaissable. Tout le monde connaît cette route-là. Donc, les problèmes sont restés les mêmes sur des années, et pourtant, on a toujours contracté des dettes, et nos pays sont tellement endettés, on ne sait pas à quoi a servi la dette. Donc, viabilité de la dette, ben, ça veut dire d'abord qu'on doit viabiliser la gouvernance, qu'il y a un problème avec la gouvernance. Si les dettes n'ont pas donné des résultats, ça veut dire que c'est la gouvernance elle-même qui n'a pas donné des résultats.
D'accord. On va quitter le sujet, Jacques. On s'intéresse maintenant à cette augmentation de tarifs de l'électricité. Ça a été annoncé la semaine dernière et là, ça veut dire que nous, en tant que citoyens, consommateurs, on va maintenant devoir payer plus que ce que nous payons pour ce qui concerne alors le tarif de l'électricité. Mais Jacques, la question est de savoir, mais qu'est-ce qui explique concrètement cette augmentation de prix?
Pascal, vous savez, ça fait quand même un peu mal, ce constat, parce qu'il faut reconnaître que on ne s'y attendait pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Vu le poids de la souffrance que nous traversons actuellement en tant que Togolais, il n'y a pas souvent d'issue par rapport aux difficultés, aux problèmes que nous traversons. Quand vous prenez aujourd'hui un Togolais, Pascal, si le Togolais ne vous parle même pas, vous regardez déjà son visage, ça dit tout. Le visage du Togolais aujourd'hui vous dit tout. Si vous ne l'avez même pas posé une question, malheur à vous, si par mégarde, vous le provoquez, là, il va vous achever complètement. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'il a dans cette vie va déverser ça sur vous. Comme si c'est vous qui êtes son problème. Vous voyez, on ne peut pas continuellement vivre sous cette tension dans le pays. Avoir toujours un cœur lourd, des pensées, de la tête lourde, chaque instant, c'est un peu compliqué. Je serai par exemple à la place des décideurs, même s'il faut le faire, c'est-à-dire s'il faut augmenter le prix de l'électricité, il faut passer par la pédagogie. Il faut expliquer aux populations pourquoi on veut augmenter. C'est vrai que le Togo ne produit pas l'électricité. Mais entre-temps, on nous avait dit, Pascal, dans ce pays, que avec contrôle global, avec la centrale Kikeli, c'est-à-dire que quand même nos problèmes, on devait avoir quand même un début de solution à nos problèmes. Si aujourd'hui, contour global ne tient pas, la centrale qui ne tient pas, il faudrait quand même qu'on nous explique, qu'on nous dise pourquoi ces deux centrales-là ne tiennent pas et qu'on aille augmenter le prix de l'électricité. Expliquez aux populations. C'est-à-dire que quand on sort un communiqué, Pascal, on lit sur la chaîne nationale, mais Pascal, toi et moi, on peut comprendre. Mais le citoyen lambda ne peut pas comprendre. Il faut que les députés à l'Assemblée nationale s'emparent de ce problème. Qu'ils interpellent le ministre. Bon, malheureusement, on n'a pas encore su un gouvernement, mais je crois que celui qui est là continue toujours par gérer les affaires courantes. Oui, il faut que les députés s'emparent de ce problème. qu'il pose la question au ministre, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Pascal, autre aspect, on sait que la société a des sérieux problèmes. La société souffre en matière de coupure d'électricité. Et les quartiers n'ont pas souvent d'électricité. Et quand vous prenez par exemple la distribution d'électricité dans notre pays, vous voyez quand même qu'il y a un problème. Il y a des quartiers carrément, c'est les fils d'araignée là que les gens utilisent. D'autres même sont obligés, Pascal, je suis allé dans un quartier la fois passée, je préfère donner, taire le nom du quartier. Vous allez voir un monsieur, c'est lui qui a par exemple le compteur. D'autres compatriotes viennent se greffer sur lui. Et souvent c'est des querelles. D'autres disent qu'il n'a pas eu telle consommation, mais la facture est tellement très élevée par rapport à la consommation. Alors que cela ne devait pas être ainsi. On l'a toujours dit, les premiers besoins basiques de l'homme, c'est-à-dire Togolais que nous sommes, Pascal, c'est quoi? L'eau, l'électricité et la route. Au moins ça c'est le rôle de l'État de pouvoir nous satisfaire dans ses besoins.
Tout à fait.
S'il faut augmenter, comme je l'ai dit, Pascal, il faut qu'on n'ait pas la pédagogie, qu'on explique aux compatriotes, parce que ce que nous lisons actuellement sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ont travaillé à la CET, vous voyez que ça rajoute une fois encore à la confusion dans la tête des Togolais. Parce que certains qui ont travaillé là-bas disent que on devait plutôt diminuer, au lieu de chercher encore à augmenter. Donc il y a un problème. Que l'État prenne vraiment ce problème à bras le corps. Les députés à l'Assemblée nationale, ça c'est leur rôle. Ils sont là pour le peuple. Il faudrait qu'ils plaident. Parce que l'augmentation du prix de l'électricité, là, ce n'est pas toi seul, hein, ce n'est pas Godson ni Didier. Les députés aussi en font partie. Vous voyez, donc je crois que c'est des paramètres qu'il faut essayer de voir, d'accord, expliquer à nos populations ce qui se passe réellement.
D'accord. Mais Godson, c'est vrai que au regard de la vie chère qui sévit déjà, est-ce que vous avez l'impression que cette augmentation de tarifs d'électricité est une couleuvre vraiment très difficile à avaler pour les populations?
Sinon, pour moi, du moins pour l'ancien DG de la CET. C'est ce week-end-ci que je suis encore tombé sur une de ces sorties et qui vaut la peine que les Togolais écoutent. Tu me donnes juste une minute.
Oui,
c'est intéressant. Il dit ceci. Le communiqué du ministre en charge de l'énergie pour justifier l'augmentation des tarifs est une insulte à l'intelligence des Togolaises et des Togolais. En 2012, nous avons réalisé un bénéfice de 3,2 milliards de francs CFA après des pertes abyssales les années d'avant de la CET. Le DG et le PCA ont cru que c'est pas magie. Puis le DG d'alors, paix à son âme, et le PCA ont commencé des gabégies qui ont plombé la CET depuis. Le DG avait nommé son neveu, soi-disant journaliste, comme directeur des ressources humaines et a augmenté de façon démesurée les salaires. Pour la sortie du nouveau-né du PCA à Sokoudé, c'est toute la CET qui avait fait le déplacement, les directeurs de département et le DG compris. Frais de déplacement et de mission à la charge de la CET. Je me rappelle que le chef protocole est rentré dans mon bureau avec une fiche de mission pour me demander à quelle heure je partais à Sokoudé. La façon dont je l'ai renvoyé de mon bureau, il se souviendra toute sa vie. Il y a eu deux sorties pour son fils. Une sortie à Lomé et une dans sa ville natale, dans la ville natale du PCA. Savez-vous que c'est le minibus de la CET qui transportait l'équipe de Semassi à ses tournois de football? Notez que le PCA était à l'époque président de Semassi. Ces salauds qui disent que je n'avais rien dit à l'époque, qu'est-ce qu'ils en savent? Le problème, c'est que personne ne vous écoute et c'est ainsi le système. C'est vraiment dommage pour cette société stratégique de notre économie nationale. Signé Yao Amoussou Beto, ancien DGA de la CET.
Ça en dit long.
Il a tout dit. Autrement dit, en 2012, la CET avait réalisé des bénéfices. Pourquoi ça n'a pas été perpétué? Qu'a-t-on fait de ce DGA? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel compte a-t-on demandé au DG? Quel compte a-t-on demandé au président du conseil d'administration, Pascal? Je me dis, à moins que la personne qui nomme les gens, elle les met trop large ou ait des choses à se reprocher, Pascal. Je le dirai toujours, l'éducation que moi j'ai reçue de M. Keto Manya et de Mme Djokoto ici ne me permet pas de supporter ou d'avaler certaines situations. Ce n'est pas normal.
il a toujours dit qu'on ne touche pas à l'argent public. Pourquoi lui le fait et d'autres vont prendre des libertés? Non. Il est temps que chacun se dise, parce que malheureusement, pour cette affaire d'augmentation, ce n'est pas seulement toi, ni Jacques, ni moi. Même les militants du grand parti au pouvoir, eux aussi vont subir cette augmentation. Au nom de quelle logique, Pascal? Au nom de quelle logique? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et pour, dans le même temps, on exempte certains de paiement de factures. Pourquoi ça? Où est-ce qu'on veut que le pays aille? Parce que quand ça commence ainsi, vient au moment où certains vont se dire, trop c'est trop. Et là, ils vont se tourner vers ceux qui sont exemptés. Et que deviendra le pays? Il est temps que les gens se réveillent et que les bons actes soient posés.
D'accord. C'est vrai, quand vous suivez les commentaires et les analyses alors dans l'opinion et sur les réseaux sociaux et ces autres, d'aucuns disent que si l'augmentation même d'ailleurs du tarif de l'électricité qui est le premier cadeau qui est fait aux Togolais dans la 5e République et que c'est dommage.
Plutôt dire bienvenue dans la 5e République, comme la plupart l'ont commenté, l'ont dit depuis l'officialisation de cette augmentation. Et comme les uns les autres le disent, c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est vrai que dans la République, certains ne paieront pas de facture. Et la plupart d'ailleurs, des gens ne vont pas payer. Toi et moi, tu sais.
Mais c'est au nom de quel droit?
Au nom de ce qu'ils travaillent pour la République. On travaille pour la République. Certains ne vont pas payer. Et ceux qui ont décidé de l'augmentation sur le prix de l'électricité, c'est la plupart des gens qui ne payent pas de facture. Et ça, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Et donc, ils ne savent pas véritablement ce que c'est le poids que ça représente de... le paiement des factures chaque mois, avec la difficulté que le Togolais aujourd'hui a à vivre dans le pays, avec la pression que ressentent les Togolais. Et c'est, comme les uns les autres le disent, c'est bien dommage que ce soit avec cette décision-là qu'on accueille les Togolais dans la 5e République. Et on a avancé un certain nombre d'explications pour justifier. Mais sur le terrain, les explications ne collent pas. Ne collent tout simplement pas. Jacques a dit tout à l'heure que dans la plupart de nos zones autour de Lomé, ici, la CET n'existe même pas. Le service de la CET, directement à la population, n'existe pas. Il y a de sous-CET, on peut dire comme ça, de sous-CET qui sont des individus qui ont pu investir qui 2 millions, qui 3 millions pour tirer le réseau ou le courant sur peut-être 2, 3 kilomètres pour arriver dans la zone. Et c'est lui qui aujourd'hui permet à plusieurs Togolais dans plusieurs zones autour de Lomé ici d'avoir l'électricité. Et donc, pour amortir ces investissements, figurez-vous que il fait payer ce qu'on appelle adhésion. Il fait payer à des gens qui viennent demander l'électricité dans la localité, dans la zone, ce qu'on appelle les frais d'adhésion. Et les gens doivent payer, certains 100 000, certains 80 000, 70 000. Vous pouvez faire les analyses. Moi, je maîtrise bien et je maîtrise bien ça parce que je connais beaucoup de personnes, beaucoup de gens de la famille qui sont dans la périphérie et qui ont payé des frais par là pour ne serait-ce que être branché. Maintenant, si vous êtes branché, le coût du kilowattheure, des fois, c'est 300 ailleurs, des fois, c'est 250. Le meilleur qu'on puisse vous faire, c'est 200.
C'est-à-dire, ce sont des gens qui subissent déjà l'augmentation.
C'est des gens qui payent le double déjà, plus du double ou plus du triple, ce qu'ils ne devraient payer sur une facture normale. Si la CET avait fait l'extension de son réseau et que si les gens avaient été branchés et qu'ils avaient le produit de la CET chez eux. Donc les gens payent des fois trois fois, deux fois et demi ou deux fois plus qu'ils ne devraient payer.
Juste pour avoir de l'électricité.
Juste pour avoir de l'électricité parce que c'est vital. Mais c'est dans ce contexte qu'on augmente maintenant sur le prix du produit qui est vendu au triple aux gens à la base. Donc imaginez
pour la plupart des Togolais qui sont dans la périphérie aujourd'hui, qui sont dans des localités où la CET n'a pas fait d'extension de réseau, n'a pas mis de poteaux, n'a pas distribué de compteurs, imaginez aujourd'hui combien ces gens-là devraient payer pour ne serait-ce qu'avoir le luxe de brancher une seule ampoule dans leur chambre ou dans leur maison. Voilà l'analyse qu'il faut faire de la situation aujourd'hui. Dire que les coûts de production, les coûts de non de maintenance, un certain nombre de choses, c'est générique comme une explication à donner dans un contexte où les populations souffrent pour avoir accès déjà à ce produit-là. La CET ne se gêne même pas dans ce cas-là. Parce que quand nous parlons du système araignée aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit à la CET? Rien. Qu'est-ce que ça dit au gouvernement? Je ne crois pas grand-chose. Donc, dans ce contexte, quand on augmente, ben, on a augmenté sur tous les produits. On a augmenté sur tous les produits. Les coûts de revient sur le marché aujourd'hui, vous allez voir comment est-ce que les augmentations vont suivre, la flambée des prix va suivre sur le marché et tout ça. Donc, je crois peut-être que je ne veux pas dire que le gouvernement ou les autorités n'ont pas fait ces analyses. Peut-être que ça les a échappé un peu, mais cette augmentation-là va causer beaucoup plus du tort à la population togolaise. Des gens, on a lu beaucoup de commentaires, on a écouté beaucoup de personnes. Certains ne parlent pas, certains ne peuvent pas parler par devoir de réserve, certains ne peuvent pas parler parce que de l'autre côté, on a parlé de discipline. Mais cette augmentation-là, c'est un coup de massue sur la tête des Togolais aujourd'hui.
Coup de massue sur la tête des Togolais. Oui. Mais Jacques, c'est qu'au même moment, on ne voit quand même pas les Togolais réagir.
Non, vous savez, Pascal, le vrai problème, c'est que lorsque, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du bœuf et du peul, pourront mieux vous expliquer cette figure. Elle dit que si vous voulez, par exemple, traire le lait d'une vache et être en sécurité, être en mesure de repartir avec le lait, il faut toujours lier les deux pieds de la vache derrière avant de commencer l'acte. Sinon, si vous n'attachez pas les deux pieds, et vous essayez de traire le lait. Le temps de vous lever, la vache prend l'autre pied, tape votre calebasse et le lait se renverse. Elle dit que la figure aujourd'hui des Togolais, c'est ça. Elle dit, les Togolais ne savent pas. Faut-il qu'on les attache avant de taire le lait? Faut-il, par exemple, tenir la vache, traire le lait, et la vache va jeter la calebasse du lait? On ne sait pas. C'est-à-dire que les gens sont là, ils regardent, ils observent. Mais ils se disent que, quel qu'en soit Alpha, le lait viendra un jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être que quelqu'un viendra de quelque part pour leur dire, bon, voilà comment faire pour pouvoir traire le lait. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est parce que les gens aujourd'hui sont fatigués de certaines situations. Et quand c'est le trop plein, Pascal, vous êtes obligé de respecter. Vous vous dites que je vais dire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? En fait, c'est ça. Et l'autre aspect également, c'est nos associations de consommateurs qui ne jouent pas leur rôle, Pascal.
Et c'est vrai, on a vu la réaction de beaucoup d'associations l'annonce alors de l'augmentation de prix.
C'est pas comme ça que ça se fait, Pascal.
Qu'est-ce qui doit être fait?
J'ai dit que si on avait une association de consommateurs très, très engagée, très forte, je vous dis que ces associations de consommateurs allaient faire réfléchir un peu l'État, fléchir autant pour moi, l'État, sur cette situation.
Est-ce que normalement, avant de prendre même cette décision, l'État ne devrait pas associer ces organisations?
C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si l'État n'associe pas les associations de consommateurs, d'ailleurs même regardez, quand vous prenez le cas de nos députés, je ne pense pas que les députés soient au courant de l'augmentation de ce prix d'électricité. Mais ça devait déjà faire l'objet d'une interpellation. Depuis, au lendemain de cette augmentation, les députés devaient interpeller le ministre de l'énergie pour lui poser la question. Parce que ça, c'est une situation, Pascal, qui rime avec le vécu des quotidiens des Togolais. Quand vous prenez aujourd'hui une femme qui va aller, par exemple, écraser le mil, vous allez voir qu'avec le menu aujourd'hui, les problèmes vont se poser. Parce que le menu va dire, mais on a augmenté le prix de l'électricité. La dame vient, par exemple, elle a l'habitude d'écraser son maïs peut-être avec 200. Le menu va vous dire, bon, on a augmenté le prix de l'électricité, je suis obligé d'écraser maintenant ton maïs à 250. Et madame, si tu ne veux pas, soit on discute. Et c'est là que vous allez voir les problèmes qu'on va, vont commencer par se créer au niveau des femmes et des meuniers. Parce que les meuniers, pensant que, regardant que les femmes ne pourront pas payer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de mettre la farine de côté quand ils essaient de remuer. Je ne sais pas si vous avez une fois assisté à comment les meuniers écrasent le maïs. Ça, c'est des problèmes encore qui vont se poser. Vous prenez aujourd'hui les bonnes femmes qui viennent avec la tomate, qui viennent aujourd'hui avec l'oignon. Pascal, les gens vous diront que c'est tellement cher, il faut augmenter. Prenez les dames qui vont par exemple piler foufou au niveau de foufou mix et tout ça là. Vous voyez ce que ça peut donner? Moi, je crois qu'il est important aujourd'hui, Pascal, comme je l'ai dit tout au début, c'est vrai qu'on n'a pas encore un gouvernement, et c'est aussi également une anomalie que, je crois que ça fait déjà 10 jours, non?
Oui, nous sommes aujourd'hui 18, c'était le 3, donc pratiquement 15 jours.
Oui, et que le gouvernement démissionne et qu'on n'arrive pas à former un gouvernement. Vous voyez, donc ça aussi, c'est une anomalie. Donc, il faudrait vraiment former ce gouvernement, que les choses aillent rapidement. C'est sûr, peut-être, je ne suis pas dans la tête des députés, mais sûrement que peut-être les députés attendent un ministre en pleine fonction pour peut-être l'interpeller pour qu'il vienne expliquer la situation.
D'accord. On va quitter le sujet. On s'intéresse à ce sujet évoqué par le journal Liberté. Gosson, vous écrivez ce matin à la une du journal Liberté, je lis, séquestration, violence physique, menace de mort, 3 points de suspension. Le préfet de l'Est, Mono Kouman Bitenewé, au cœur de graves accusations. Qu'est-ce qui se passe, Gosson Ketomania?
C'est un préfet boxeur.
Comment ça?
Un préfet qui a la main très facile.
Facile.
Oui. Il est accusé de voie de fait sur des citoyens. Des gens ont témoigné. Ils ont fait des plaintes. Ils se sont plaints. Et maintenant, reste à savoir si un tribunal saura faire la part des choses. Parce que, voilà, il ne faut pas l'oublier. Avant, en plus d'être préfet, il est militaire. Or, le monsieur, selon les informations, il a appris d'un certain fils d'eux qui était pas très tendre. Je veux pas dire qu'il était très violent. Donc, ce monsieur, il a giflé des gens dans son bureau. Au moins deux personnes.
Préfet qui gifle.
Voilà, c'est ça. Donc, on a essayé de traiter le sujet. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, la quintessence y est. Mais si on a osé citer son nom, c'est parce que c'est avéré.
Mais je ne comprends pas comment se fait que déjà un préfet, autrefois, c'est vrai, la violence, on parlait même d'ailleurs de violence avec un chef canton dans le Bas-Mono et au niveau d'Agbetiko, et cette fois-ci c'est le préfet de l'Est-Mono qui use alors de violence sur les populations.
Oui, mais je fais confiance à mes confrères du journal Liberté et qui ne peuvent pas prendre le risque de dire des choses qui ne sont pas avérées. Et puisque c'est avéré, je dirais que c'est très grave qu'une autorité représentante du pouvoir central dans cette préfecture-là puisse se livrer à ce genre de comportement, d'attitude qui n'honore pas son rang. Et qui n'honore pas celui qui l'a nommé, celui qui lui a fait confiance pour le représenter là-bas. Donc, si ces comportements se multiplient, un préfet qui gifle plus de deux personnes, qui use de la violence sur les citoyens, la République est en danger avec ce genre de préfet. Malheureusement, si c'est ce genre de préfet qu'on a, on a choisi d'avoir un modèle de préfet militaire. Et si c'est parce qu'il est militaire qu'il se donne cette liberté, mais c'est très grave. Et je crois que il faut justement que le tribunal militaire puisse, le procureur militaire, c'est ça, le procureur oui. du tribunal oui. militaire, puisse naturellement se saisir de ce dossier-là et enquêter pour voir si les accusations portées contre le colonel, il n'aime pas souvent qu'on dise qu'il est colonel, mais je crois que c'est ce qu'il est. Si contre le colonel Koumabité Lewé, qu'on diligente une enquête pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'Est Mono, celui qui était censé protéger les citoyens, être le garant du pouvoir là-bas, qui devient lui-même un danger pour les citoyens togolais de là-bas, c'est très grave et il faut justement que les autorités réagissent à ce sujet-là.
Jacques, c'est vrai, quand on parle de préfet, c'est le pouvoir central. Le pouvoir central, il est censé vraiment protéger les citoyens, mais c'est plutôt, ça constitue un risque alors pour les citoyens.
Moi, je crois que, comme Didier le disait tout à l'heure, c'est le journal Liberté qui a mené l'enquête. Ils connaissent les tenants et les aboutissants de cette enquête. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est que le ministre de l'administration territoriale, qui est le responsable de ces préfets, s'empare de ce sujet et voir effectivement clair ce qui se passe. Parce que on ne peut pas se permettre, vous vous rappelez de l'histoire également, entre-temps, d'un préfet qui était à Dapan, qui donnait des ordres à ce qu'on puisse arrêter des émissions en direct. Et finalement, il a été muté. Donc je crois que c'est des choses quand même que il faut avoir foi au ministre Odabalo Awate. Bon, s'il sera encore maintenu, donc je crois que ce serait le premier sujet brûlant qu'il doit traiter et voir réellement ce qui se passe avec le préfet et colonel Bitinoué.
D'accord. On va clôturer le débat avec cet autre sujet. C'est bien le sujet de ce conclave ou cette rencontre qui a eu lieu le samedi dernier. Et c'est par rapport à la crise dans l'est de la RDC. Et vous le savez très bien que le président du conseil, Fornia Singbe, est désormais le président. Et il a été choisi même d'ailleurs comme le médiateur de l'Union africaine pour cette crise. Et il y a cinq anciens chefs d'État qui se sont réunis le samedi dernier à Lomé. Et je le disais, selon un communiqué officiel rendu public à l'issue alors de cette rencontre de Lomé, le médiateur et le panel des facilitateurs ont insisté sur la nécessité d'articuler de manière cohérente les actions des facilitateurs et celles du médiateur dans un cadre intégré. De même, ils ont insisté sur l'importance d'une collaboration renforcée avec les organisations régionales, notamment le CAE et le SADEC. Gosson, finalement, on dira que cette médiation est sur la bonne voie.
Laquelle? Puisque tu viens de parler de cinq anciens chefs d'État, le minimum aurait été que notre désormais nouveau chef d'État soit aussi de la rencontre. Parce que Fornia Singbe, c'est le chef du gouvernement, ce n'est pas le chef d'État. Le chef d'État, désormais, c'est Jean-Luc Sanvi de Tovey. Bref, si on en est arrivé là, d'abord, je me dis, pour une crise qui couvre actuellement et derrière laquelle se trouveraient des puissances, que ce soit des has-been en termes de chef d'État passé qui viennent se retrouver à Lomé, dormir, manger pour débattre de ce sujet-là. Bref, on est là, en mina facile. Moi, je dis, je dépose mes yeux pour voir ce que ça va donner.
D'accord. Didier, quelle appréciation vous faites alors de ce conclave qui s'est tenu à Lomé le samedi dernier?
Mais quelle appréciation puis-je faire? Je ne suis pas ancien chef d'État, je ne suis pas diplomate. Mon appréciation ne servira à rien, mais je remarque justement que la médiation togolaise se donne les moyens de se faire remarquer sur ce dossier. Et je constate que j'ai lu une phrase dans la déclaration finale, dans le communiqué final, qui dit qu'il a été décidé de trouver un moyen de maintenir un pont avec le Qatar et les États-Unis. Ça veut tout dire autour de ce dossier-là. C'est un dossier très complexe. C'est vrai, les acteurs qui ont été invités à Lomé sont des acteurs qui connaissent le dossier, qui ont un avis global ou un peu peut-être pointu pour certains sur le dossier pour avoir été ancien dirigeant dans la zone. Mais si on avait eu des dirigeants congolais et rwandais la dernière fois,
ça aurait pu renforcer encore plus l'initiative, mais on a constaté que, on a dit que c'était un panel de facilitateurs autour de la médiation de Lomé pour faire aboutir les discussions en cours. Espérons de toute façon que de bonnes résolutions aient été prises et que de bonnes informations aient été données au chef du gouvernement Togo, le président du Conseil des ministres du Togo, pour qu'il puisse
président
continuer.
Du conseil, pas des ministres.
Moi, je suis dans la constitution Karma, donc la constitution du président du Conseil des ministres du Togo, parce qu'il n'y a pas un Conseil du Togo, à mon avis, dans
conseil
la constitution.
De la République.
Avec le temps, on sera habitué. Allons-y.
Oui, on sera habitué, oui, mais quand on dit Conseil du Togo, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, de toute façon, que Foy Yassingbé ait eu les informations nécessaires pour pouvoir pousser les discussions, tout ce que nous voulons, c'est que l'Est congolais puisse devenir une zone apaisée et que le Congo et le Rwanda puissent devenir des nations voisines qui s'entendent sur la cohabitation et qu'il n'y ait plus de Congolais qui tombent, qui meurent et qu'il n'y ait plus de déplacés et tout ce qu'il y a comme difficulté dans la zone là-bas. Aujourd'hui, il faut justement que le chef du gouvernement du Togo puisse utiliser les informations qu'il a eues le week-end à Lomé pour justement pousser loin la médiation pour que l'accord annoncé d'ici fin juin puisse être une réalité. Et là, ce sera le nom du Togo qui sera porté haut.
D'accord. Jacques, votre analyse?
Non, je vous avais dit au début, par rapport au Congo, vous avez parlé d'une figure. Le Congo aujourd'hui, c'est une très belle femme qui est là. Donc, les courtisans sont là. Et chacun a ses astuces pour pouvoir avoir la femme très belle. Donc, le Togo est en train également de jeter ses jalons envers cette femme. Les États-Unis, le Qatar, on a appris également, il y a la France et tout ça. Donc, c'est celui qui a le plus d'astuces qui puisse gagner et conquérir le cœur de la dame. Donc, la dame est toujours assise tranquillement et c'est les courtisans qui tournent autour de la dame. Et chacun à son niveau dans le meilleur de soi. Donc, laissons à la fin, on verra.
Et dans tous les cas, il y a les fils et filles pardon, de la dame qui sont tués.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Si les fils et les filles sont tués, l'essentiel que c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur que cela se passe. Mais à l'extérieur, les courtisans sont là.
Donc, est-ce que ça ne rend pas complexe aussi la médiation?
Oui, comment, en quoi la médiation peut prendre un coup?
Mais vous savez que c'est le fait que c'est des puissances, les puissances qui sont derrière.
On a expliqué ce problème. On a toujours dit que c'est les intérêts. C'est à cause des minerais du Congo que le Congo a des problèmes. Si le Congo n'avait pas de minerais, le Congo n'aurait pas du tout de problème. Donc, tant que le Congo aura ses minerais et qu'il y a trop de courtisans autour de ces minerais, le Congo aura toujours des problèmes. Laissez ce qui se passe. Je vous dis que ça, c'est un jeu qui se joue et vous verrez la suite, effectivement, de la situation que le Congo est en train de vivre. Soit Joseph, Tshisekedi accepte de capturer, donner les minerais et la guerre va se taire. Mais s'il refuse, il s'obstine à vouloir toujours dire que non, lui n'est pas d'accord, le Congo ne serait jamais en paix.
C'est votre avis, Jacques. Oui. Merci beaucoup. Merci, chers confrères. Nous allons maintenant écouter les auditeurs se prononcer sur ces sujets, ces différents sujets discutés ici ou débattus ici au Club de la Presse. Et mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, 91 36 315 et également nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 118 57. Notre premier auditeur est en ligne. Allô?
Bonjour Pascal.
Bonjour Didier.
Comment vous allez?
Et Patrick, bonjour.
Ça va? J'ai les deux jours.
Ça va aussi, par la grâce de Dieu.
Merci.
Merci.
Je salue tous les autres. Monsieur Pascal.
Patrick.
Vraiment, parfois, il y a des rapports qui viennent, on se demande si on est où. Regardez ce que M. Ketemanya vient de lire. En tout cas, moi, je n'étais pas en possession de ce rapport. Mais regardez là où ça nous amène. ce que Tom Naya vient de lire, c'est ahurissant. C'est accablant, c'est grave. Et ça, c'est pour la société. Et pour les autres sociétés, les PCA là. Vous savez, c'est pour la société où nous sommes en train de voir comme ça. Imaginez pour les autres sociétés. Puisqu'il y a des PCA bon, dans les entreprises, un peu partout. Et là, si les ambassadeurs, la fin de l'année, si vous voyez ce qui se passe, les épines pour les diplomates, les ambassadeurs, tout ça là, on est où? Alors que la population demeure dans la souffrance. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tout ça là, est-ce qu'on va encore aller chercher loin avant d'imposer les gens sur ce point-là? Puisqu'ils sont là, ils ne sont pas encore décidés, ils sont là, ils sont vivants. Tout l'argent là s'est passé par où? Si moi je m'avais volé un coq, maintenant on va m'arrêter. Si c'est même pas fait, on va me tuer. À quoi de coq, on va 2000 à 3000? C'est normal quoi. Quand nous souffrons, nous tous nous souffrons. Mais pourquoi les gens vont vivre au dos des autres? Alors qu'ils sont déjà nantis. Le peu que nous aussi nous allons manger, ils viennent jusqu'à dans la maison pour en prendre encore. C'est normal. Bonne émission.
Merci beaucoup Patrick pour intervention 90-86-37-35.
Allô? Oui, bonjour monsieur Pascal.
Bonjour, comment vous allez? Votre nom c'est
Natima.
Ah, Natima.
Oui.
D'accord, allez-y.
Je veux dire ce que notre ami là. Vous voyez, la route nous met vraiment en point. Vous savez, le système, ce qu'il est en train de faire. Vous savez, on va arrêter qui? Parce qu'on dit que, oui, notre, Jacques dit qu'on compte les députés vont s'en servir du dossier. Ils sont tous dans le même système. Qui maintenant va arrêter qui? Vous voyez, tel que vous avez débattu là-bas. Quand Talon a pris l'argent, vous voyez le demain, c'est un paradis. Vous voyez le lendemain, ils étaient déjà loin. Vous voyez la Côte d'Ivoire, Ouattara a fait. Beaucoup même. Combien d'années il faut? Même 5 ans là, en 5 ans, 10 ans, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous savez, monsieur Pascal, si au Togo là, on pouvait canaliser l'air que nous respirons là, notre gouvernement là, il est là à le faire ça, et les Togolais même à le suivre. Regardez les nettoyage partout. Même là, c'est même actuellement, comme tel que Pascal l'a dit, les Togolais, ça dit que c'est accru. On ne sait pas, nous allons faire des Togolais, nous amener. Ils veulent nous tuer.
Merci beaucoup Natima pour votre intervention. Bonjour Canal FM. Cette question de dette de mon pays qui nous laisse sans voix, c'est très triste. Si on fait des dettes et sur le plan de réalisation, l'on ne voit rien, ça ne vaut pas la peine. Dans un pays où être ministre ou DG donne l'opportunité de devenir millionnaire, alors n'attendons rien du développement du pays. L'argent emprunté passe ailleurs et c'est ça... ce que nous vivons. C'est Ibrahim qui nous écrit. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, monsieur Gado.
Bonjour au plateau.
Oui.
Bon, moi, ma question au plateau est que la société, il n'y a pas aucun expert togolais pour diagnostiquer le mal. La société devient un fardeau pour la nation. Vous savez, il y a trop d'araignées et la société s'est endettée, mais non, la société ne se développe pas. Il n'y a pas aucun togolais, un expert pour résoudre ce problème. Et c'est triste. Merci, bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée aussi. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Mauto.
Oui.
Allez-y.
Merci
beaucoup. Allez-y.
Vous savez, pour les traités, hein, c'est une fois qu'on a augmenté encore les taux au Togo, c'est une bonne chose. Si oui, continue toujours à se tenir le président fort et son gouvernement, c'est une chose dont on doit payer au plus cher. Les gens qui vivent au Togo, ils n'ont plus rien de nos Togolais. C'est fini quoi. Vous verrez, ils vont former le gouvernement, vous verrez les mêmes choses. Les barras, les clients, les mêmes choses. Ils vont faire quoi encore? Rien quoi. Merci, bonne émission.
Merci, monsieur Mouton, pour votre intervention. Bonjour, Pascal. Moi, c'est monsieur Rowe pour l'électricité ATC. Et ses amis sont comme les partis politiques qu'on a usé de son influence. Par conséquent, ni la population, ni partis politiques et organismes de consommateurs n'ont rien à dire devant le régime togolais. Nous sommes dans les wait and see. C'est Rowe depuis AKP. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Pascal.
Oui, votre nom c'est
Razak de Zongo.
Pardon, c'est
Razak de Zongo.
Razak
oui, de Zongo,
allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Moi, je voulais demander une seule question. Le voyez qui parle que le président Poirier donne les mauvais exemples aux présidents africains. on a un mandat de 5 ans. Il passe à 5 ans. Est-ce que c'est vrai? D'abord. Merci, bonne journée.
Allez, bonne journée à vous aussi, Razak. C'est vrai que je n'ai pas bien cerné hein, votre question que vous avez posée. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo, ça.
Allez-y.
Hier, j'ai écouté votre confrère avec la poussive. C'est Haïté. C'est Haïté. Mais il disait que tout ce que ce régime a bénéficié de la Chine, c'est de se maintenir au pouvoir. Mais il a oublié la guillotine. Donc, il y a la guillotine en Chine contre les forces sûres, là. Il a cité des maisons pas possibles, des gens. C'est pourquoi les gens ont la peine de déclarer leurs biens. Et ces maisons-là sont entretenues par quelle électricité publique? Auprès de qui? Ils prennent tout, ils ne donnent rien aux Togolais. Hein? Mais là, on envoie les députés pour expliquer quoi encore. Ils vont envoyer les députés, il a dit, pour expliquer le pourquoi on augmente le flux d'électricité. Mais ceux qui ont souhaité ce régime pour un bien Eldorado, soit premier Eldorado dans la 5e République, nous tous, on va déposer les yeux pour voir. Bonne mission.
Merci, monsieur Nyamavo, pour votre intervention. Bonjour, les amis. Vous savez, affaire de sûreté, c'est normal. Quand un système a atteint son apogée, c'est comme ça, il fonctionne. Depuis l'investiture de son excellence, président, sans vie de Tové, il n'est plus visible. Il est devenu Zorro. Si, un jour, le président de la République n'est plus, qui peut le remplacer? Dites-moi. Bonne émission, c'est monsieur Nyamako. Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour le plateau.
Oui, votre nom c'est
S'il vous plaît, c'est Kodjovi de Zangira.
Kodjovi de Zangira, allez-y.
Oui, j'aimerais aborder le cas de Congo démocratique et du Rwanda. Bon, voilà un pays qui envahit son voisin. Et la Belgique, l'Angleterre et d'autres pays ont condamné le Rwanda. Maintenant, sur le plan continental, l'UA n'a osé lever le petit doigt. Ce que je voudrais savoir, dans la charte de l'UA, il n'y a aucun article qui protège l'intangibilité des frontières. Et maintenant, comment on peut résoudre ce problème si on ne connaît pas ou bien on n'identifie pas le pays agresseur? Et tout ça là, ça frise l'hypocrisie. Donc, c'est tout ce que je vois. Hein.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, monsieur Kodzovi, depuis Zangera, 90-86-35-35. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
Ça va aussi. Votre nom, c'est?
Ali.
Ah, Ali, allez-y.
Oui, c'est la grâce pour le Togo qu'on s'est bien réveillé. Je disais chaque temps que l'impunité est développée au Togo, par le président Faure, les gens ne comprennent pas. L'impunité, ce n'est pas le fait de dire que l'autre là même, quand il fait quelque chose, je ne dois pas le punir, tout ça là, c'est dangereux. Au niveau de Tcharapanga, voici deux policiers, nous disons que chaque fois qu'eux portent leur treillis, beaucoup de choses se passent, mais on néglige la version de la population. C'est toujours le corps habillé qui a raison. Voici ce qu'ils sont partis faire. Un préfet, un ancien, quoi, vous dites, qui commence par tabasser les gens dans son bureau. C'est toujours l'impunité qui se développe. Maintenant, vous, Jacques nous dit que les députés doivent se servir de ce quoi, de essence tout ça. Vous voyez un député là-bas qui va interpeller un. Vous dites également qu'on est un poids de parlementaire. Vous voyez.
des choses que vous faites croire aux populations comme si c'est de bonnes choses. C'est dangereux.
Non, mais, Ali,
oui.
Nous sommes en train de faire notre analyse alors des choses et selon ce qui est là comme la nouvelle constitution et le Parlement peut interpeller justement le gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cela que l'analyse a été faite. Oui.
Ok, je dis clairement dans un cas tel que la constitution le dit. Vous voyez, monsieur a dit interpeller M. Fonassine comme Premier ministre. Vous voyez, M. Adjudi interpeller quelqu'un qui se... Ils sont dépunis et ce qui est commun à eux, c'est de garder le pouvoir,
Mais merci beaucoup, Ali, pour votre intervention. Et il faudrait quand même que quand nous nous exprimons, que nous nous exprimons surtout avec des mots très courtois, c'est très important. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, je vous écoute. Allô? Décidément, il ne nous écoute pas. Nous allons recevoir un autre auditeur, 90-86-35-35-91-36-63-115, les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler et réagir dans l'émission Club de la Presse aujourd'hui. Allô? 90-86-35-35-91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp, 90-45-78-57. C'est sur ce numéro que vous pouvez réagir. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce lundi, 90-86-35-35.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est
Grégoire.
Pardon?
Grégoire.
Grégoire.
Oui, oui.
Ah, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Zongo.
De Zongo, allez-y Grégoire.
Bon, moi, ma question est que notre président, Joseph Nanyasoubé, il est en train de montrer comment on viole les mandats dans l'Afrique, quoi. Est-ce que c'est normal? C'est pas bien. On a dit un mandat de 5 ans. Maintenant, lui, il passe jusqu'à aller 5e mandat. C'est pas bien. Il montre les mauvais exemples aux présidents africains. Quand est-ce que les présidents africains vont réconcilier? En Europe, si un président dépasse 5 ans, ou bien 10 ans, ou bien 20 ans, il a présidé. C'est pas bien.
D'accord, merci beaucoup Grégoire pour votre intervention. Je pense que Grégoire c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce lundi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Jacques, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici. Votre réaction?
Oui, c'est pour ça que je disais tout au début de l'émission que il est vrai que quand vous prenez aujourd'hui la tension dans le pays, et parce que vous allez remarquer que le degré d'intolérance ne fait qu'augmenter dans ce pays. Et ce qui peut faire baisser cela, c'est nos responsables et nos dirigeants. Donc, plaise à Dieu, parce que c'est des émissions qu'ils écoutent. Il faudrait qu'ils prennent les mesures, leurs responsabilités à faire diminuer, ne serait-ce que ce degré d'intolérance qui est en train de grimper dans notre pays. Et l'autre aspect également, dire aux compatriotes, on ne met pas des institutions pour les mettre dans le placard. C'est-à-dire que il faut que nous puissions avoir cet esprit, nous puissions nous dire que lorsqu'il y a une situation, il faut toujours se plaindre. Si vous ne vous plaignez pas, il n'y aura pas de suite. C'est comme la justice. Aujourd'hui, les Togolais ne veulent pas aller vers la justice parce qu'ils se disent que s'ils vont même à la justice, porte plainte, ça ne donnera rien. Non, il faut le faire. Il faut toujours le faire. Quand on parle d'interpeller les députés aujourd'hui, il faut que les députés soient interpellés. Il faut que le ministre de l'Énergie soit interpellé et qu'il dise effectivement aux députés ce qui s'est réellement passé. Donc, il ne faut pas que les Togolais pensent que en disant d'interpeller les gens, c'est un péché. Pas du tout.
D'accord.
Il faut le faire, Pascal.
Merci beaucoup, Jacques. Oui, disait.
Ouais, je crois que il y a deux auditeurs qui ont posé des questions. Un sur la constitution du Togo, il voulait savoir si le président de la République n'est plus là, qui devrait prendre sa suite.
Hein, là, c'est M. Nyamakou.
Ok. L'article 38 de la Constitution nouvelle dit qu'en cas de en cas de vacance de la présidente de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, les fonctions du président de la République sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Donc, si quelque chose arrivait au président de la République, on ne souhaite pas ce que la Constitution a prévu, ce sera M. Barquet, 83 ans, qui devait prendre la suite. Donc, provisoirement, le temps qu'on élise quelqu'un d'autre dans les 45, entre les 45 et les 60 jours qui suivent, la vacance constatée du pouvoir. Il y a un autre également qui a parlé du Congo et se demandait est-ce qu'il n'y a pas dans la charte de l'Union africaine une clause concernant l'intangibilité des frontières. Je crois que oui. Il a été dit que les frontières sont celles héritées de la colonisation. Et donc à partir de ce moment-là, les frontières entre le Rwanda et la RDC sont connues. S'ils ne sont pas connus, je crois qu'une commission peut continuer à aider à ce que les deux pays puissent tracer les frontières. C'est pas si grand que ça. Ils peuvent continuer, ils peuvent même mettre une clôture là-bas s'ils veulent. Mais est-ce qu'il y a une volonté de la part, par exemple, d'agresseur du Rwanda de respecter l'intégrité territoriale de la RDC, vu que le Rwanda tire l'essentiel de ses ressources de l'imbroglio qui sévit dans cette zone-là? Est-ce que véritablement quelqu'un aura le courage de dire aujourd'hui, mais respecte l'intégrité territoriale de ton voisin, respecte les frontières? Je crois que en Afrique aujourd'hui, beaucoup n'ont pas le courage de dire cette vérité à Paul Kagame, qui paraît tout puissant, tout beau et apprécié par certains d'ailleurs. Donc, espérons de voir si au cours de la médiation, ces vérités pourront être dites et que, in fine, des résolutions puissent être prises autour de l'intangibilité de la frontière entre les deux pays et que, finalement, le Rwanda consent à respecter les frontières qui le séparent avec la RDC.
D'accord. Gonson?
Oui. Sans vouloir m'opposer au propos de Didier, moi, j'ai pu comprendre plutôt que l'interlocuteur est allé au-delà de tes réflexions. Pour lui, c'est que si des pays hors du continent en sont arrivés à doigter l'agresseur et à condamner ses actes, pourquoi sur le continent on n'a pas assez de coups pour faire pareil, pour appeler un chat, et qu'on veut passer par une forme de médiation ou d'intermédiation pour arriver à quel résultat? C'est de ça, en fait, son idée, c'est vraiment qu'on cite, qu'on dise, qu'on condamne. Malheureusement, ce n'est pas ça, et c'est dommage. Il y a deux interlocuteurs qui ont posé un même sujet, Razak et le dernier. Voilà. En fait, pour eux, c'est que quelle image nous donnons si, après tant de temps passé au niveau de la présidence, plutôt que de passer la main à quelqu'un d'autre, nous faisons du yo-yo avec la Constitution pour nous retrouver dans une posture où on ne va plus nous élire, mais nous allons demeurer et avoir même mis sur toutes les manettes du pouvoir. Donc c'est au risque de te me contenter parce que j'ai senti que tu ne voulais pas trop t'apesantir sur la question. C'est réel. C'est réel. Je n'ai rien contre notre président du Conseil des ministres. J'insiste là-dessus, c'est constitutionnellement que c'est, je le dis. Mais c'est un fait. D'accord. Essayons d'y réfléchir.
D'accord. Merci, ces confrères. Zoli, cette dernière réaction, hein, avant que nous mettions fin à l'émission. Bonjour. Moi, je pense que le problème du Togo, c'est l'impunité et le manque de reddition des comptes qui pose problème. Car, comme le dit un adage de chez nous, je cite, quand tu piles du foufou pour un aveugle, il faut chanter. Sinon, il penserait que tu es en train de manger son foufou. C'est-à-dire,
et depuis Adapame. Merci, merci beaucoup Alger pour cette intervention. Merci beaucoup chers confrères, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci Jacques. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé dans cette émission. Didier Assoba, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal en ligne Togo Breaking News. Merci à Gosson Ketomanyan du journal Liberté. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lessou. Je vous retrouve demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.